Bonjour à tout le monde. Donc je me présente, je suis le père Paul Habsbourg, né à Munich et de la communauté des Légionnaires du Christ. Et j'habite à Paris depuis 13 ans. Je suis grandi, entre guillemets, spirituellement au berceau de Medjugorje. On peut dire un enfant de Marie. Je suis aussi fruit d'un couple qui aime très bien. Et qui continue à s'aimer ou à me montrer que l'amour est possible. Donc ça, c'est un peu le roc de ma vocation qui m'a fait croire à l'amour. Et donc, quelqu'un m'a invité de venir au Lot. Donc j'étais ici une fois 24 heures, mais là, je découvre. Et donc, je suis très content de pouvoir partager avec vous quelques idées, quelques éléments un peu structurants de la personne humaine pour comprendre pourquoi on est précisément ce mystère entre ténèbres et lumière, pourquoi en nous il y a des divisions, pourquoi on peut être parfois si noble et parfois si misérable, si saint et si pécheur, hein, et pourquoi c'est parfois plus fort que nous. Donc, prions encore à l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as promis l'Esprit Saint, tu nous as donné ton propre esprit pour que nous puissions accueillir ta vie, pour nous rappeler de tout et pour nous introduire dans la vérité tout entière. Tu nous as dit que tu ne nous laisseras pas seuls, mais au contraire, tu es avec nous et non seulement avec nous, mais même en nous. Tu nous as créé à ton image et non seulement tu nous dis quoi faire, mais tu nous as confié ta création. Et tu veux à travers nous continuer ta création. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de ta vie en nous pour voir ce que tu vois et aimer ce que tu aimes. Donc Seigneur Jésus, viens maintenant et envoie ton esprit du ciel comme tu l'as promis. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Et Vierge Marie, nous sommes auprès de toi, nous sommes avec toi, nous sommes chez toi, nous sommes à la maison. Nous te confions cette journée, merci cet enseignement pour que tout ce que le Seigneur veut que je dise et qu'on comprenne soit introduit dans nos cœurs, dans nos intelligences. Marie, nous avons besoin aussi de comprendre, non seulement de croire, mais quand on comprend mieux, on croit mieux et vice-versa. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bien, nous pouvons mettre la première image. Alors, dans la première image, j'ai mis un texte de Saint Paul, lettre aux Romains que nous connaissons bien. En effet, ma façon d'agir, je ne la comprends pas, car ce que je voudrais, cela, je ne le réalise pas, mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. Or, si je ne veux pas le mal que je fais, je suis d'accord avec la loi, je reconnais qu'elle est bonne, mais en fait, ce n'est pas moi qui agis, c'est le péché, lui qui habite en moi. Je sais que le bien qui n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis, en effet, ce qui est à ma portée, c'est de le vouloir, le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui, qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans le membre de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voilà, je pense un texte avec lequel nous pouvons tous nous identifier, nous pouvons tous nous retrouver dans ce texte, parce que nous avons tous fait, et nous le faisons tous les jours, l'expérience de savoir le bien et parfois misérablement faillir et ne pas y arriver. Et le Seigneur nous dit, rassure-vous, ce n'est pas non plus le but que tu arrives finalement à ne plus tomber. Parce que, dit Benoît XVI, ce n'est pas prévu que l'homme soit entièrement lui-même sans un autre qui est le Christ. Donc ce n'est même pas prévu que tu arrives dans le Christ. Ce n'est même pas prévu que finalement tu n'as plus de problème, finalement il n'y a plus de tentation, finalement il n'y a plus de péché. Parce qu'alors tu n'as plus besoin du Christ. Que le péché ne soit pour nous jamais un lieu de honte, mais toujours un lieu de rencontre avec ton Sauveur. Toujours. Jamais un lieu de honte, toujours un lieu de rencontre avec le Sauveur. Lui, il se régale de te laver les pieds, de te laver les pieds souvent, peut-être tout le jour, peut-être 7 fois par jour. Voilà, donc j'aimerais vous donner quelques éléments de structure. Moi, je suis tout sauf structuré, mais là, confrère qui m'a appris ça, et donc je le partage avec vous parce que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Donc nous mettons la première image. L'idéal, normalement je fais cette image petit à petit, donc je fais un dessin et mot par mot, j'explique, voilà, il y a tout à la fois, et après d'autres images où il y a à peu près tout à la fois, mais j'explique. Donc saint Thomas d'Aquin, qui est un des plus grands théologiens de voilà, tous les temps, il a une manière particulière d'expliquer la personne humaine. Donc il dit, la personne humaine a des facultés surnaturelles et des facultés naturelles. Pourquoi je vous explique ça? Parce que donc, nous avons cette division, et comme, voilà, ut unum sint, que nous soyons un, nous avons besoin de nous laisser unifier. Nous ne pouvons pas nous unifier tout seuls. Nous avons besoin d'un Sauveur que nous réunifie, qui donne union, structure, et qui nous fasse comprendre aussi. Et voyez ce que je vais faire ce matin, je vais essayer de partager avec vous quelques éléments pour qu'on comprenne. Quand Jésus dit la parabole du semeur, il y a des graines qui tombent sur le chemin, après il explique et il dit, c'est la parole de Dieu qui tombe, et personne ne nous explique la parole de Dieu, et donc on la perd. Donc, comprendre, c'est important. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est utile. Donc, faculté surnaturelle, faculté naturelle. Et c'est important de connaître ces facultés pour les identifier, mais aussi pour dédramatiser un peu ce qui ne fonctionne pas très bien. Donc, les instincts. Donc, cette partie-là, des facultés naturelles, instincts, passions, sentiments, nous l'avons en commun avec les animaux. Les animaux aussi ont des instincts. Par exemple, un araignée sait comment faire une toile d'araignée. Mais c'est pas pourquoi il le fait tout seul. Voilà. Et quand la première mouche rentre, l'araignée comprend pourquoi. Non, c'est celui qui a fait le film La vie est belle, il a fait une explication des 10 commandements, et quand il part sur la prière, il dit, la prière c'est un peu comme une toile d'araignée, donc quand l'araignée le fait pour première fois, il sait pas pourquoi il le fait, mais il le fait parce que sa maman lui dit fais comme ça, non, donc il le fait, ou l'instinct plutôt. Et donc, l'araignée attend, ça sert à rien. Et tout d'un coup, une mouche, non? Et voilà. Et il dit, la prière, c'est la même chose. Il faut continuer. Et un jour, quelque chose va tomber et tu vas te dire, ah, finalement, c'est pas si mauvais. Voilà. Donc, les instincts, par exemple, les instincts sont basiques. Se nourrir, boire, se reposer, se reproduire. Un animal ne doit jamais réfléchir. Un pigeon ne va jamais boire trop d'eau, par exemple. Il va dire le matin, mince, j'aurais pas dû. Un chevreuil ne va pas utiliser mal sa capacité de reproduction. Un canard ne va pas trop manger, ou trop peu, anorexique, un canard anorexique. Non, il n'y a pas. Un lapin ne va jamais trop long dormir trop long, va faire la grasse mat. Un lapin ne peut pas faire la grasse mat. Parce qu'ils ont un instinct qui les dit, là tu te réveilles, là tu t'endors. Vous allez dire, oui, mais les chiens, parce que je crois, parce qu'ils habitent proche de l'homme. Donc, plus qu'on s'approche de l'être libre, qui peut aussi ne pas écouter sa conscience et, ou ses instincts, alors parfois, voilà, même les animaux font des bêtises et mangent trop ou trop peu. Bref. Donc, les instincts. Donc, un animal ne doit jamais réfléchir comment gérer les instincts. L'animal le suit, il n'y a aucun mérite, parce que c'est l'instinct qui gère tout. Nous avons une liberté, c'est-à-dire nous devons choisir de manger pas trop et pas trop peu, de boire pas trop et pas trop peu, de dormir pas trop et pas trop peu. Et la merveille, quand nous le faisons, nous faisons un acte qui produit, pour ainsi dire, une énergie divine. Ça veut dire, quand je choisis bien et je ne prends pas encore une bière ou encore un verre, je fais un acte qui est bon et qui produit quelque chose dans le corps du Christ. Et le corps du Christ, l'Église, devient plus sain parce que moi, même si je suis tout seul dans ma chambre, je pose un acte qui est un choix libre de faire tout simplement ce que je sais que je dois faire. Donc, simplement faire ce que je dois faire est déjà un acte qui sanctifie l'Église. Quand un lapin se lève le matin, il n'y a aucun mérite. Mais quand toi, tu te lèves le matin, il y a beaucoup de mérite. Même si tu le fais tout le matin, mais chaque fois. Donc, voilà. Alors, donc, l'instinct, voilà, c'est ça. Après, les passions. Donc, les passions sont des forces qui nous permettent de mettre en œuvre ce que l'instinct nous propose, ou plutôt ce que nous savons que nous devons faire. Comme un animal qui doit courir pour avoir la proie et ensuite donner à manger aux petits, mais nous devons faire des efforts pour accompagner ceux que Dieu nous a confiés, pour faire notre devoir, et ça exige un effort. Donc les passions que nous avons en nous, en principe, nous sont données pour faire le bien, pour faire le devoir. Donc en principe, les passions sont toujours bonnes. Ça, c'est avant la chute de l'homme. Et je n'appelle pas, j'aime pas l'appeler péché originel, mais je préfère de dire blessure originelle. Parce que péché originel, c'est un peu comme s'il y avait un péché que j'ai commis parce que j'ai quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est une blessure que je porte et donc elle fait en moi que j'ai une tendance à faire ou ne pas faire. Aller trop loin ou pas. Donc les passions, comme dit le mot de latin, non, pati, donc ça veut dire subir, c'est pas quelque chose que je peux ne pas avoir. Donc ça veut dire il y a une force en moi que je ne peux pas choisir de ne pas avoir. Je ne peux pas choisir de ne pas être fatigué ou de ne pas avoir faim. Après, je peux réagir ou pas à ça. Je peux me soumettre à ça ou pas. Bon. Donc les passions sont des forces immenses que Dieu nous a données pour aller jusqu'au bout. Persévérer dans la prière, persévérer dans la charité, persévérer dans le pardon, persévérer dans un pèlerinage, persévérer quand je monte vers l'ange, etc. Persévérer dans un jeûne ou dans un bon gâteau. Voilà. Donc, les sentiments sont des réalités magnifiques. Gratitude, admiration, tendresse, confiance. Donc, toutes ces forces intérieures qui facilitent de faire le bien. Je me souviens quand j'avais 12, 13 ans, je devais dormir chez mon grand-père, seul, il était veuf déjà, et donc on faisait un tour de rôle, et je dormais dans la chambre à côté, et un matin, il m'appelle, et il était tombé dans le toilette, voilà. Et donc, il était nu, non, et difficile. Mais j'avais une telle admiration pour lui, une telle tendresse pour lui, qu'il n'y avait pas de problème. Donc, ça ne me dérangeait pas du tout. Mais en principe, c'était hyper gênant. Bon, les sentiments de gratitude, d'admiration, de tendresse, de complicité, voilà, de communion, peuvent nous transporter très, très loin. Évidemment, les sentiments aussi, parfois, peuvent nous faire des mauvais jeux. Bon. Alors, au début, dans la création, tout ça était profondément bon. Nous nous rendons compte aujourd'hui, le sentiment ne nous aide pas toujours. Mais il faut bien comprendre quand il faut les écouter et quand il faut leur dire « attendez ». Ensuite, faculté surnaturelle. Donc, nous avons une faculté qui correspond à peu près aux instincts, à l'instinct pour les animaux. Non, c'est la conscience que nous avons tous de savoir qu'il faut faire le bien, il ne faut pas faire le mal. Ça, tout le monde le sait. Et la conscience nous dit qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, la conscience me dit, je vois un sans-abri ou je vois quelqu'un pauvre, et donc ma conscience me dit, tu es grand frère, c'est ton frère, tu dois faire quelque chose. Mais après, j'ai l'intelligence, la raison, et quand je m'approche et à 5 mètres, je sens l'alcool, par exemple, donc je sais que je ne vais pas lui donner de l'argent, mais plutôt un sandwich, ou lui dire un mot, ou m'asseoir avec lui, ou quelque chose comme ça. Donc, la conscience me dit ce que je dois faire ou pas faire, et la raison m'explique pourquoi je dois le faire ou pas faire. La conscience me dit qu'il faut pardonner. La raison m'explique pourquoi il faut pardonner. La conscience me dit qu'il faut aller à la messe, mais la raison me dit pourquoi. Et parfois, nous n'avons peut-être pas tous les arguments. Non? Hier, il y a un jeune homme qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il voilà, il se prépare au mariage, et il y a une copine, et donc voilà, il a commencé à dormir avec elle, mais en fait, il sait qu'il ne devrait pas, mais en même temps, il veut, donc c'est pas très bien. Et je vois qu'il veut faire quelque chose, mais il n'a pas les arguments vis-à-vis lui-même, ni vis-à-vis sa copine, et donc, il lui manque la raison, il a juste la conscience qui, entre guillemets, dérange, mais la raison n'a pas les éléments pour dire voilà, pourquoi. Donc c'est important de se former. C'est pour ça aussi, pendant ces jours-là, on va se former pour continuer à donner des raisons, des arguments à notre agir. Alors, la conscience nous dit quoi faire, la raison nous dit pourquoi le faire, et ensuite la volonté. Qu'on peut dire la volonté, c'est pas très important parce que c'est volontarisme, et il faut pas juste être volontariste, mais il faut faire les choses par conviction. Oui, mais la volonté est très importante. Et souvent, nous voyons le bien que nous devons faire, et je fais le contraire. C'est comme Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices spirituels, il parle des trois différents personnages. Un qui voit le bien qu'il doit faire, mais il met aucun moyen. L'autre qui voit le bien qu'il doit faire, il met quelques moyens, mais c'est pas réaliste. Par exemple, un jeune, je me souviens, qui avait 14 ans, il me disait, moi, je passe la nuit entière à regarder Internet. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour ne pas le faire? Il dit, je pourrais mettre l'ordinateur en dehors de ma chambre. Très bien. Est-ce que tu le feras? Non. Donc ça veut dire, il a vu qu'est-ce qu'il doit faire, mais la volonté dit, niet. Je ne vais pas le faire. Je connais un père de famille qui a dit, quand je travaille sur l'ordi, j'ai mis mon ordi dans le salon de telle manière que tout le monde peut voir ce qu'il y a sur mon ordi. Je trouvais juste d'une humilité délicatissime parce qu'il a dit, au cas où, je me sens tenté, voilà, comme ça je me protège de moi-même. Voilà. Bon. Alors, volonté. La volonté, le problème est que la volonté, elle est aveugle, on peut dire. Ça veut dire elle va écouter celui qui crie plus fort. Ou bien ses amis-là, ou bien ses amis-là. Et donc, nous devons apprendre à la volonté à écouter, dit saint Thomas, la raison et la conscience. Donc, là, il y a un ordre, vous voyez. Tous les 6 sont bons. Mais c'est important que, voilà, j'écoute la raison et la conscience, je peux écouter les sentiments, mais si les sentiments sont en contradiction avec la raison ou la conscience, je ne dois pas écouter les sentiments. Ça semble facile, mais après, c'est difficile, nous le savons très bien. Ok, alors, nous allons maintenant passer au prochain slide. Clic. Et donc là, vous voyez plein de choses, parce qu'en principe, j'explique ça petit à petit, mais soyez patients avec moi. Donc, on va parler de la Genèse. Un petit moment. Là, j'ai 3 mots. Livre historique, poétique, symbolique. Dans la Bible, quand on parle d'Adam et Ève, c'est important de savoir, c'est pas un problème que ça soit symbolique. Parce que tout en étant symbolique, c'est quand même vrai ce qui est écrit. C'est pas une logique historique scientifique, mais c'est pourtant vrai. Donc, faut pas avoir peur d'assumer ce que dit la Genèse, parce que la Genèse dit des éléments symboliques, comme des parents qui expliquent à l'enfant par une image quelque chose, mais il leur dit une vérité, simplement par une image. Donc ce que nous voyons dans la Genèse, ce sont des images qui disent des choses profondément vraies. Pape Jean-Paul II, il a pendant 5 ans, tous les mercredis, parlé de la Genèse pour parler de la relation femme. Donc, il a sorti des centaines et centaines et centaines de catéchèses des mercredis, juste de ce petit texte symbolique. Nous avons bien sûr aussi des textes historiques, évidemment les évangiles, aussi quelques éléments de l'Ancien Testament, mais il faut savoir que les Juifs n'avaient jamais l'intention d'abord de dire des choses historiques scientifiques. Ce n'est pas leur intention. Leur intention est communiquer des vérités que de toute façon, comme ce sont des vérités de Dieu, on ne peut pas les communiquer parfaitement, aussi historiquement, scientifiquement. Donc on les explique comme on peut. Donc on sait pas, il y a comme un grand mélange entre histoire réellement et des éléments plutôt, voilà, de la tradition ou même symbolique. Mais pour nous qui cherchons Dieu et pas les détails de l'histoire, hein, s'il a dit ceci ou ça exactement, pour nous, tout ça rend service. Livre poétique, par exemple les psaumes. Aujourd'hui, c'est la fête, la mémoire de Saint Pie X, et lui, il était un grand fan des psaumes. Hein, donc des psaumes qui sont... Ben, c'est comme une école de prière. Dieu nous donne des mots pour nous tourner vers lui. Il nous dit, si tu veux vraiment me parler, commence comme ça. Vas-y. Si tu veux apprendre à entrer en relation avec moi, prends les psaumes, commence à les dire. Au début, tu ne vas pas tout comprendre, c'est pas grave. Et petit à petit, tu vas commencer à penser comme je pense. Et tu vas commencer à parler comme je parle. Benoît XVI disait que c'est comme des parents qui parlent, l'enfant écoute, comprend rien, mais imite les mots sans les comprendre. Après, il grandit, il utilise les mots, mais beaucoup trop adulte pour son âge. Et finalement, il comprend les mots, et finalement, il va dire avec les mots des parents ce qu'il porte dans le cœur. Les psaumes, ils font exactement ça. Et moi, je suis témoin, donc au début, je les ai lus, je n'ai rien compris. Et petit à petit, tu penses comme les psaumes. Et tu te rends compte, par exemple, que... Donc typiquement des psaumes, c'est « Seigneur, je suis pauvre, donc tu viens me sauver. Seigneur, je suis fragile, donc tu m'aimes. Seigneur, souviens-toi de ta fidélité, non pas de ma fidélité. Nous, on pense, Seigneur, j'ai fait ça, 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 maintenant tu vas me bénir. » Et Dieu dit « Ben non, parce que ça ne marche pas comme ça dans mon royaume. Mais si je dis « Mais Seigneur, attends, tu m'as fait une promesse. » Tu m'as dit, tu seras avec moi tous les jours de ma vie. Il dit, ouais. Mais alors, j'ai plus peur. Il dit, voilà. Ah, ok. Mais ça, on oublie. On oublie, parce qu'on est bien enraciné dans le monde. C'est pour ça que la prière, en principe, c'est pas pour dire à Dieu qu'est-ce qu'elle doit faire, parce que plus ou moins, elle sait. Mais c'est plutôt pour nous rappeler qu'il est là et pour nous rendre disponibles pour qu'il fasse son œuvre en nous pour que nous devenions les personnages dont il a besoin dans son histoire du salut. C'est plutôt ça le sens. Donc c'est pour se rappeler qui nous sommes et pour se rappeler qui nous sommes dans son histoire, que nous sommes sa propriété, et ensuite pour lui ouvrir le cœur, pour qu'il façonne notre cœur, il fasse de nous petit à petit, à travers des choses très agréables et parfois très désagréables, il nous façonne et il fait de nous des personnages dont il a besoin dans son histoire de salut. Et c'est pour ça que parfois on ne comprend pas, mais plus que tu t'ouvres à l'histoire de Dieu, mieux tu comprends. Voilà. Donc, on peut dire sur Napoléon, il y a l'histoire, il y a des poésies, il y a des tableaux. Moi, je peux dire, je n'ai pas besoin des tableaux. Oui, mais les tableaux sont capables de dire quelque chose que l'histoire n'est pas capable. Des poésies sont capables de dire quelque chose que les tableaux ne peuvent pas dire. Voilà. Donc tout ça... complète un peu l'image de Dieu. Prochaine image. Voilà. Donc, nous venons donc à la Genèse. Et imaginons, donc ça c'est Adam. Adam est un... Donc la manière comme la Genèse est racontée est que Adam est un être relationnel. Pour nous, la relation, c'est voilà, une des clés de notre existence. Il est en... Donc, La Genèse nous dit que Dieu parle, Adam fait, Adam parle, Dieu fait. Donc il y a une relation, une harmonie dans la création. Il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il y a une harmonie totale. Au début de la Genèse, tout roule. Adam est nu, mais il ne sent pas le besoin de se couvrir. Donc il est en harmonie avec lui-même. Il est en paix avec lui-même. Adam voit Ève, Les deux sont nus, mais ils n'ont pas honte. Et Adam voit Ève et ils ne sentent pas le besoin de la critiquer. Et Ève ne voit pas le besoin de critiquer ou changer. Ils sont juste dans une harmonie parfaite. Ils se font confiance, ils sont dans une communion, ils voient que nous sommes faits. Ils sont faits pour. Pardon, ce bâton. Ils sont faits pour être un don l'un pour l'autre. Ils sont faits pour la vie. Ils sont faits pour la communion. C'est très clair, c'est net. Donc, il y a une harmonie absolue entre les deux. Et finalement, Dieu confie à l'homme la création. Les plantes et les animaux, et Adam les nomme et se nourrit, et Adam vient le jardinier. Donc Dieu, pour ainsi dire, nous dit, je vous confie ma création. Continuez ce que j'ai commencé. Pensez comme moi, aimez comme moi, sentez-vous comme un grand frère, comme un papa de la création. C'est pour ça qu'un chrétien va toujours voir la création un peu comme à lui confier, ben parce que c'est le jardin de mon papa. Et c'est beau de voir non seulement les créatures, mais aussi voilà, les humains comme ça, toujours comme des frères. Prochaine image. Nous passons maintenant au jardin avec tous les arbres et avec l'arbre du bien et du mal. Donc Dieu dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres. C'est une merveille. Et après il lui dit, mais de cet arbre-là, tu ne prendras pas. Alors on peut se dire pourquoi Dieu a-t-il mis un arbre dans le jardin duquel l'homme ne doit pas prendre ? Est-ce qu'en principe, si Dieu aime l'homme, il devra lui dire tu peux prendre tous les arbres ? Pourquoi il a mis un arbre duquel il a dit tu ne prendras pas ? Ça, là, c'est un thème qui est super important parce que c'est un peu la question d'où vient le mal, non ? Un des mal, non ? Dieu crée l'homme à son image, donc il le crée capable d'aimer parce qu'il le crée libre. Mais pour qu'il puisse mettre en œuvre sa liberté, Dieu doit lui donner la possibilité de ne pas lui faire confiance. Il doit lui donner la possibilité de lui dire non. Et au moment qu'il lui donne la liberté, donc la capacité d'aimer, il lui donne en même temps la possibilité de dire non, d'avoir méfiance, de dire oui, mais est-ce que tu m'aimes vraiment ? Donc, la capacité d'aimer apporte toujours avec elle la capacité de ne pas aimer, la capacité de faire le mal ou de ne pas faire le bien. Alors, parce que Dieu aime l'homme et parce qu'il nous a créés libres, il était obligé de nous donner la possibilité de dire non, je ne te suivrai pas. Et donc, il était obligé, pour ainsi dire, de mettre un arbre dans le jardin pour que l'homme puisse, ayant tout devant lui, dire ben non, je ne vais pas t'obéir. Parce que seulement alors, l'homme, quand il choisit le bien, mais son choix est précieux. Et donc, s'il peut tout avoir, son choix ne sert à rien. Yeah. Et ça, le diable le sait mieux que nous. Il sait toujours mieux que nous. Par exemple, il sait mieux que nous ce que ça veut dire être baptisé, que chaque tout petit effort que tu fais sanctifie l'Église entière. Quand tu fais bien ta prière du matin, l'évêque du lieu peut être meilleur évêque, moi je peux être meilleur prêtre. Les personnes en difficulté dans le corps du Christ reçoivent quelque chose de toi parce que toi, tu as fait ta prière du matin. Quand tu pardonnes à quelqu'un, le pardon dans le corps du Christ grandit. Ça, le diable le sait très bien. Nous, on oublie tout le temps. C'est pour ça que la prière, elle sert surtout à nous rappeler de la valeur immense des moindres actions que nous pouvons faire. Donc, le diable qui sait que la liberté de l'homme est pour choisir, vous rappelez la liberté, la volonté, il vient donc pour confondre Ève. Et il dit à Ève, et ça c'est typique pour le diable, est-ce que c'est vrai que Dieu a interdit tous les arbres ? Ça veut dire Dieu a dit, rien, tu peux prendre d'aucun des arbres. Ça, le diable est très bien à absolutiser. Ça parfois dans les relations, on dit tu fais toujours ça, jamais ça, toujours ça, jamais ça. Et on sait très bien que ça ne sert à rien et c'est négatif. Et donc le diable dit, Dieu a dit, en fait, il ne veut pas que tu sois heureux. Et nous, parfois, on peut penser ça, on ne le pense pas explicitement. Mais par exemple, le matin, quand je suis dans le lit, et je sais que je devrais me lever, ça pourrait m'arriver de dire, ben non, je vais pas me lever. Pas maintenant, j'ai encore besoin de 2 minutes, tourner droite et gauche, droite et gauche, droite et gauche. Et en fait, ça ne sert à rien. Mais quelque chose en moi, ce qui est mon corps, me dit, non, j'ai encore besoin. Et après, ma conscience me dit, vas-y, lève-toi, parce qu'autrement, après, tu ne vas pas pouvoir faire ta prière du matin. Ah, je te déteste. Tu dis, moi ? Non, mais quelqu'un là-haut, je ne sais pas qui. Oh, quelque chose, quoi. Et tu ne veux pas que je t'aime. Tu ne m'aimes pas, et c'est pour ça que moi-même, je vais choisir de rester au lit. Et Dieu dit, ben d'accord, très bien. Alors, le diable dit à Ève, est-ce que c'est vrai que Dieu a dit aucun arbre ? Et Ève dit, ah non, pas du tout. Première fois, elle réagit bien. Pas du tout, comme une bonne parisienne, non ? Ah, pas du tout, non ? Est-ce que c'est comment est-ce que j'arrive à la place, place Iéna ? Ah, c'est pas du tout ici. Merci, ça j'ai compris. Ok, maintenant, est-ce que... Ah, je sais pas du tout. Ok, là, non seulement vous ne savez pas, mais même pas du tout. Vous êtes désolé ou pas ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. C'est un Allemand qui arrive à Paris, qui apprend certaines expressions qui font même un peu plaisir. Non, pas du tout. Ah, après, je veux partir. Bon, alors Ève dit, ah non, pas du tout. Dieu a dit, nous pouvons prendre de tous les arbres, seulement pas celui-là. Donc le diable dit, mince, elle a compris, elle a tout compris. Elle a tout compris. Donc comment faire ? Et donc là, il attaque, donc il a attaqué la raison, et la vue, là, il n'arrive pas. Donc là, il attaque maintenant les passions et les sentiments. Il dit, oui, mais il a dit ça parce qu'il sait très bien que c'est cet arbre-là qui est le bon. Et ça, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Et ce n'est pas vrai que vous allez mourir. En fait, il est jaloux, il veut être lui le tout-puissant, et vous êtes les petits serviteurs. Donc, c'est seulement parce qu'il ne vous aime pas qu'il veut vous empêcher de prendre de cet arbre-là. Paf. Et donc, la prochaine phrase dit, et Ève voyait que le fruit était délicieux. Et elle avait envie d'y prendre. Donc, c'est plus la raison et la conscience, c'est brutalement les passions et le sentiment. Boum. Et elle. Donc en ce moment-là, il s'est créé comme une fissure. Et nous passons à la prochaine image. Qu'est-ce que la première chose ? Donc elle prend du fruit, elle donne à Adam, qui est avec elle. Qui est avec elle veut dire, moi je ne sais rien de hébreu, malheureusement, mais je sais que être avec elle, ça veut dire le bras dans le bras. En fait, il est à côté d'elle, il ne fait rien pendant qu'elle parle avec, non pas un serpent, mais le mot c'est monstre. Donc, sa femme parle avec un monstre, il ne fait rien. Dieu. Moi, je n'ai rien fait. Ouais, en fait. Lui, il voulait le fruit aussi. Il dit, vas-y. Ouais. Voilà. Moi, je n'ai rien fait. Donc, elle lui donne, il prend. Et qu'est-ce que la première chose qui arrive ? Première chose, après qu'Adam et Ève ont pris du fruit, ils se rendent compte qu'ils sont nus. D'accord ? Première chose, nous sommes nus. Donc, cette harmonie, ce regard sur soi-même qui est totalement paisible comme un enfant, je suis nu et ma nudité est un problème. Et Dieu dit non, ta nudité n'est pas un problème. Oui, elle est un problème. Pourquoi elle est un problème ? Parce que j'ai perdu l'image de Dieu. J'ai perdu la communion avec Dieu. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ah ouais, nous pouvons passer un moment au prochain image, à la prochaine image. Donc, ça c'est Dieu, c'est Adam, et là il y a comme un cordon ombilical. Et par ces cordons ombilicaux passe la vie de Dieu qui rentre en Adam. Le diable ne pouvait pas couper le cordon ombilical. Mais il pouvait tenter Adam de s'éloigner de Dieu. Donc le cordon ombilical commence à se tendre. Encore plus, il s'éloigne, paf ! Et la vie de Dieu ne rentre plus dans l'homme, et donc l'homme devient plus animal qu'enfant de Dieu, finalement. Il devient très vulnérable, son regard sur lui-même change, sa nudité est horrible, ou un problème, ou dérange, elle n'est pas facile à gérer. Notre nudité, elle est bizarre d'un côté, elle est paisible, d'autre côté, elle n'est pas paisible. Mais ça, c'est fruit du fait que Dieu n'habite pas pleinement en nous. Et donc, on est désunifié. Là, il y a une fissure qui s'est créée entre nous et Dieu. Et toute honte, angoisse, peur, et tout cela, c'est parce que la vie de Dieu ne rentre plus en nous comme la vie de la mère ne rentre plus. La vie de la mère ne rentre plus dans l'embryon. La vie, la nourriture, la boisson, le sang, les affections et tout ça. Donc, la relation avec Dieu, ce n'est pas surtout pour dire à Dieu, voilà, qu'est-ce qu'il doit faire, ou comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire, mais pour qu'il ait sa vie en moi, et donc je la paie, comme nous avons chanté ce matin. Alors, relation avec lui-même, elle est coupée, ou il y a une fissure. Prochaine chose, Adam entend Dieu qui arrive dans le jardin, et qu'est-ce qu'il fait ? Il se cache. Et Dieu dit, où es-tu Adam ? Eh ben, je me suis caché. Je me suis caché parce que je suis nu. Dieu dit, mais pourquoi tu t'es caché ? Est-ce que tu aurais pris de l'arbre que je t'ai interdit de prendre ? Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est cette femme que tu m'as donnée, hein, la mère de tes enfants. Voilà. Cette femme que tu m'as donnée, elle m'a donnée, et donc je prie. Brutal, hein? Honte. Donc, l'homme a peur de Dieu. Il a peur que si Dieu lui demande quelque chose, il va souffrir ou il ne va pas être si heureux que s'il pouvait choisir lui-même, comme les petits-enfants qui parfois ne font pas confiance aux parents parce que je veux ça, parce que les passions prennent le dessus. Et c'est très douloureux, cette fissure entre nous et Dieu, cette non-totale confiance. Elle est très douloureuse. Peut-être c'est une des réalités les plus difficiles en nous, parce qu'elle nous fait tourner en rond, en fait. Et donc, nous sommes exposés à la peur, à l'angoisse, à tout, quoi, à toutes les tentations, et nous ne pouvons rien faire. Relation fissurée ou brisée entre l'homme et la femme, entre les humains, aussi extrêmement douloureux quand la confiance est blessée. Très, très douloureux, difficile à récupérer, impossible à récupérer, sinon dans le Christ, dans la relation avec lui. Et maintenant, très, très important, la création. Qu'est-ce que Dieu dit à Adam ? Adam, mais tu es idiot, quoi. Parce que tu as fait cela, ben, le sol est maudit. Il ne dit pas, parce que tu as fait cela, je maudis le sol. Attention. Il dit, parce que tu as fait cela, le sol est maudit. Parce que je t'ai confié la création, tu te rends compte, tu as dit non à moi, et tu maudis le sol. Tu fais du mal à la terre par tes actions humaines. Quand tu ne réagis pas, quand tu n'agis pas selon ta conscience, ben, la terre va souffrir. Et les parents peut-être le savent, ou le père de famille peut-être, moi je le sais en tant que prêtre, supérieur de communauté, quand moi je fais des bêtises ou je n'écoute pas ma conscience, très souvent les membres de ma communauté font les mêmes bêtises que moi. Un jour j'ai compris ça, j'ai dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, il y a un vrai impact immédiat. Mais là vous voyez un impact immédiat de l'action de l'homme, poum, la création elle est blessée. Ne soyons pas surpris que s'il y a des tremblements de terre, s'il y a des maladies contagieuses, s'il y a des guerres, tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de non-obéissance, de non-confiance qui s'est accumulée dans le monde. Et c'est normal que le monde en souffre. Donc c'est important de... Vous voyez, et si on fait le contraire, par contre, si tu fais une bonne action, mais quelque chose dans le monde est sauvé. Hein, et quelque chose dans le monde est récupéré. Ok, prochaine image. Ça, c'est l'humanité, on peut dire, donc chaque être humain. On est tous connectés les uns avec les autres. Donc, quand moi, je fais quelque chose, ça va toujours avoir un impact sur toi, mais indirectement aussi sur toi. Donc, si moi, je bénis Dieu, si je fais un pèlerinage, si je pardonne quelqu'un, ils vont tous, d'une manière ou autre, profiter parce que, voilà, la grâce, la vie de Dieu rentre en moi. Donc, dans l'origine, il y avait une union là, et cette union s'est cassée, paf. Donc, prochaine image. Donc, Dieu essaye de, de trouver une autre... C'est comme si on coupe le câble d'un radiateur. Et donc, le radiateur ne s'allume plus tout seul. Il a besoin... Il ne peut plus se réparer. Il est froid et c'est fini. Donc, Dieu envoie des patriarches, Abraham et plus tard Moïse. Et donc, il essaie à travers les patriarches rappeler le peuple, créer une alliance. Mais en fait, ça ne marche pas parce que les hommes écoutent. Mais après un certain temps, ils lâchent. Ils écoutent, ils retombent. Ils écoutent, ils retombent. Ils vont retourner en Égypte, vont vouloir retourner en Égypte, finalement re-adorer le veau d'or parce que c'est plus facile, etc. Prochaine image. Donc, il envoie les prophètes, hein, Isaïe, Ézéchiel, qu'on lit pendant ces jours, Jérémie, et les prophètes aussi, elles rappellent le peuple. Et le peuple dit, ah oui, okay, comment est-ce qu'on a pu oublier la parole de Dieu? Donc, ils redécouvrent la parole de Dieu, ils se mettent tous à la lire, à la méditer, et après, ils retombent, parce que l'homme tout seul, ça ne marche pas. Finalement, il y a une belle méditation de Benoît XVI où il dit, Dieu a cherché, il a cherché un humain qui pouvait aimer jusqu'au bout, louer jusqu'au bout, obéir jusqu'au bout, faire confiance jusqu'au bout, et ne le trouve pas, ne le trouve pas, ne le trouve pas. Donc il dit, ah, je sais ce que je veux faire. Prochaine image. Il dit, donc, je deviens homme moi-même. Donc moi, Dieu, je deviens l'un de vous. Pouf. Donc je rapporte, je transporte cette vie de Dieu dans le monde en étant l'un de vous. Et tous ceux qui sont en communion avec le Christ sont en communion avec la source, avec la vie de Dieu. C'est pour ça que quand nous rentrons en communion avec le Christ, nous assimilons, nous recevons à nouveau cette vie qui coule en nous. Et ensuite, prochaine image. Après, Jésus remonte au ciel. Donc, il est au ciel, mais aussi sur la terre. Il est au ciel, voilà, uni avec le Père et le Saint-Esprit, mais il est sur la terre par plein des moyens que nous avons accès à lui. Prochaine image. Et donc là, nous revenons à notre belle image là. Donc, ça, cet ordre par la fissure entre Dieu et l'homme s'est inversé. Donc souvent, ce sont les passions et les sentiments qui sont là-haut. La raison ne comprend rien, la conscience essaie de rappeler de quelque chose et la volonté est paralysée. Donc, par l'incarnation du Christ, Jésus rétablit la nature humaine, il rétablit l'ordre, mais l'homme peut uniquement le faire vraiment s'il est en communion avec Dieu. Dieu, il guérit notre conscience parce qu'on peut la déformer, il éclaire notre raison. Par exemple, je sais que je dois faire le bien et ne pas faire le mal, mais aimer l'ennemi, ça semble pas raisonnable. Et Dieu dit, vas-y, essaie de le faire. Et donc, j'ai besoin que dans l'extérieur, Dieu me révèle que je dois aimer aussi l'ennemi. Je l'essaye et je me rends compte que ça marche et ça me fait du bien. Pardonne celui qui t'a fait du mal. Non pas les choses qu'il a fait, mais pardonne la personne. Tu dois pas aimer les choses qu'il a fait, mais tu dois aimer la personne. Et donc, l'homme l'essaye et se rend compte que ça donne de la paix à mon cœur. Donc, mais j'ai toujours besoin, donc l'homme a besoin du Christ, d'être en relation avec le Christ, pour être juste lui-même. Lui-même. Alors, il fortifie la volonté pour que la volonté puisse choisir ce que la conscience et la raison me disent. Il guérit aussi les sentiments, les passions, les instincts. C'est pour ça, typiquement, là, le fruit d'une vraie relation avec le Christ dans le temps, c'est toujours la paix dans l'âme. La paix dans l'âme, c'est le fruit... C'est le signe que Dieu habite là. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas réussir, mais c'est quelque chose qu'il veut établir en nous. Donc, il veut construire ça en nous. Et donc, il fait ça à travers certaines portes. Des portes sûres, qui sont des portes qui donc, donnent accès au Christ pour nous réunifier et pour remettre sa vie en nous. Donc, typiquement, la prière que nous avons dit, la prière n'est pas surtout pour dire à Dieu de quoi j'ai besoin, aussi, mais la prière est surtout pour donner à Dieu un accès. Parce qu'il ne peut pas venir si tu ne le dis pas, tu peux. Vas-y, je t'ouvre mon cœur. Et Dieu dit, ça me suffit. Et c'est bien d'avoir conscience, quand je dis à Dieu, viens, ben il vient. Quand le disciple Emmaüs dit à Jésus, reste avec nous, la prochaine fois dit, il restait avec nous. Il restait avec eux. Donc, la prière comme lieu donc où Dieu entre dans mon cœur et dans l'intérieur réunifie ce qui est dispersé, divisé. Donc, c'est une merveille de savoir, c'est pas prévu que je réussisse un jour de toujours dire oui au bien et rejeter les tentations. Je peux pas le faire sans le Christ. C'est pas prévu, mais c'est pas prévu que je vive sans le Christ. Les sacrements sont comme des portes sûres par lesquelles, non pas je prends de la force pour moi, parce que souvent on voit les sacrements un peu comme je prends de la force pour moi, pour mon histoire. Et Dieu dit, oui, mais aussi, les sacrements pour moi sont une porte par laquelle j'ai accès à ton cœur pour te préparer pour l'histoire du salut. Et comme ça, ta vie va avoir un sens infini et une